qu'en endeuille les eaux. La cabane d'Ebdorton n'était point belle. On a entendu des gens affirmer qu'elle était laide, et même, suivant l'exemple des gens de l'écluse de Harvey, aller jusqu'à faire précéder leur adjectif d'un explétif plein d'expressions qui soulignaient leur appréciation. Mais Hem était un homme impassible, qui allait son train, et pour l'esprit duquel les commentaires d'un public dépourvu de goût ne faisaient guère d'impression. Il avait lui-même bâti sa maison. Elle faisait son affaire et celle de son associé. Leur fallait-il quelque chose de plus? À vrai dire, il montrait quelque susceptibilité sur ce point. Quoique je dise que c'est moi qui l'ai bâti, remarquait-il, elle est bien préférable à tous les hangars de la vallée. Oh, des trous, ben oui, naturellement. Est-ce que vous prétendriez avoir de l'air frais sans qu'il y ait des trous? Ça ne sera pas le renfermé chez moi. La pluie, oh bien, si elle laisse entrer la pluie, n'est-ce pas un avantage de savoir qu'il pleut sans avoir à ouvrir la porte? Je ne voudrais pas d'une maison qui ne laisserait pas passer l'eau quelque part. Quant à être un peu écarté de la perpendiculaire, eh bien, il ne me déplaît pas qu'une maison penche un peu de côté. En tout cas, elle plaît à mon camarade, le patron Morgan, et ce qui est bon pour lui est assez bon pour vous, je suppose. Et alors, son interlocuteur, sentant venir les arguments ad hominem, s'esquivait ordinairement et laissait l'architecte indigné maître du champ de bataille. Mais si différentes que puissent être les opinions quant à la beauté de l'édifice, il n'y en avait qu'une au sujet de son utilité. Pour le voyageur fatigué, après une marche pénible de la route de Beckhurst dans la direction de l'étude de Harvey, la belle lueur qui brillait au sommet de la hauteur était comme un phare d'espoir et de confort. Ces mêmes trous dont parlaient les voisins narquois contribuaient à répandre au dehors une joyeuse atmosphère de lumière qui était deux fois la bienvenue en un soir comme celui-ci. Il n'y avait qu'un homme à l'intérieur de la hutte. C'était le propriétaire, Ebdorton, en personne, ou les eaux, comme on l'avait baptisé d'après les règles primitives du blason en usage au camp. Il était assis devant le grand feu de bois, contemplant d'un air farouche les profondeurs brûlantes et donnant de temps à autre un coup de pied à un fagot en manière de leçon dès que ce fagot faisait mine de se consommer en cendres. Sa figure de Saxon au teint clair, ses yeux naïfs et hardis à la barbe blonde et frisée, se dessinait en un contour découpé nettement sur l'obscurité quand la lumière fantasque s'y jouait. C'était celle d'un homme viril, résolu. Cependant, un physionomiste aurait pu découvrir dans le dessin de la bouche les indices qui trahissaient je ne sais quelle faiblesse, une indécision qui contrastait étrangement avec ses épaules d'Hercule et ses membres massifs. Cette faiblesse d'Eb, c'était d'être une de ces natures confiantes, simples, qui sont aussi aisées à mener que difficiles à faire marcher, et cette heureuse flexibilité de caractère avait fait de lui en même temps le jouet et le favori des habitants de l'écluse. Dans cette colonisation primitive, le badinage avait des allures assez lourdes, et cependant, si loin qu'on poussât la blague, on n'était jamais arrivé à faire prendre la physionomie de l'Ezo un air sombre, à faire naître en son brave cœur une méchante pensée. C'était seulement quand il suffigurait qu'on mettait en jeu son aristocratique associé que l'on voyait sa lèvre inférieure prendre une contraction de mauvais augure et qu'un éclair de colère dans ses yeux bleus obligeait le plaisant le plus incorrigible de la colonie à rentrer jusqu'à l'apparence de sa raillerie préférée et à bifurquer vers une dissertation sérieuse et absorbante sur le temps qu'il faisait. Le patron est en retard ce soir, murmura-t-il en se levant et s'étirant d'un bâillement de géant. Par mes étoiles, quelle pluie, quel vent, n'est-ce pas, Blinky? Blinky était une chouette pleine de réserve, à l'humeur méditative, dont le confort et le bien-être étaient pour son maître un sujet de sollicitude constante, et qui en ce moment même le contemplait gravement, perché sur une des solives du toit. Ah, c'est dommage que vous ne sachiez pas parler, Blinky, reprit Hub, en jetant un coup d'œil à sa compagne emplumée. Car il y a terriblement de raison dans votre figure, et aussi pas mal de mélancolie, on le dirait. Amour malheureux peut-être quand vous étiez jeune? À propos d'amour, ajouta-t-il, j'ai pas vu Suzanne de la journée. Il alluma la bougie plantée dans une bouteille noire sur la table, traversa la chambre et alla considérer d'un air grave une des nombreuses gravures des journaux illustrés qui s'étaient égarées par là, où elles avaient été découpées par les habitants de la maison et collées au mur. La gravure qui attirait particulièrement son attention représentait une actrice en costume très voyant qui, un bouquet à la main, minaudait devant un auditoire imaginaire. Ce dessin avait, pour je ne sais quel motif insondable, fait une impression profonde sur le cœur sensible du mineur. Il avait conçu à l'égard de la jeune personne un intérêt tout humain, et sans que rien l'y autorisât, il l'avait baptisée Suzanne Banks et avait fait d'elle son idéal de la beauté féminine. Vous voyez, ma Suzanne, disait-il, quand un voyageur venant de Bathurst ou même de Melbourne décrivait les charmes d'une Circé qu'il avait laissée là-bas. Il n'y a pas de jeune fille comparable à ma Suze. Si jamais vous retournez au vieux pays, manquez pas de demander à la voir. Suzanne Banks, c'est son nom, et j'ai trouvé son portrait que j'ai mis dans la cabane. Abe était encore à la contemplation de sa charmeuse quand la grossière porte s'ouvrit. Un nuage aveuglant de rafales et de pluie pénétra dans la cabane, cachant presque entièrement un jeune homme qui avança d'un bond et se mit en devoir de fermer la porte derrière lui, opération que la violence du vent rendait assez malaisée. On aurait pu le prendre pour le génie de la tempête, avec l'eau qui ruisselait de sa longue chevelure et coulait sur sa figure pâle et distinguée. Eh bien, dit-il d'une voix légèrement boudeuse, n'avez-vous rien préparé pour souper? Il est prêt à servir, dit gaiement son compagnon, en montrant une grande marmite qui bouillait près du feu. Vous avez l'air un peu bouillé. Peste un peu mouillée, je suis trempé, ami. Je suis inondé jusqu'aux os. Oh, c'est une nuit à pas mettre un chien dehors, du moins un chien pour lequel j'aurai quelque respect. Passez-moi cet habit sec qui est suspendu au clou. Jacques Morgan, ou le patron, comme on l'appelait, appartenait à une classe plus nombreuse qu'on ne lui supposait à l'époque de la ruée qui avait marqué les commencements. C'était un homme de bonne famille qui avait reçu une éducation libérale, un gradué d'une université anglaise. Le patron aurait, suivant le cours naturel des choses, été un vicaire énergique. Il aurait cherché à faire son chemin dans les carrières libérales, sans certains traits cachés de son caractère, qui avait fait irruption au dehors et qui avait bien pu lui être légué en héritage par le vieux Sir Henry Morgan, l'homme qui avait fondé la famille grâce à quelques pièces de 8 vaillamment conquises dans des batailles navales. C'était évidemment ces quelques gouttes de sang aventureux qui l'avaient poussé à quitter, en sautant par la fenêtre de la chambre à coucher, le presbytère vêtu de lierre, à abandonner le home et les amis pour venir en Australie. tenter la fortune, le pic et la pelle à la main dans les plaines australiennes. Les rudes habitants de l'église de Harvey n'avaient pas tardé à apprendre qu'en dépit de sa figure féminine et de ses manières précieuses, ce petit homme possédait un courage froid, une résolution invincible, grâce auquel il avait conquis le respect dans une réunion d'hommes où l'audace était regardée comme la plus élevée des qualités humaines. Personne d'entre eux ne savait comment. Les eaux et lui étaient devenus associés, et pourtant ils l'étaient associés, et l'homme le plus vigoureux dans sa simple et sympathique nature éprouvait un respect presque superstitieux envers son compagnon à l'esprit clair et décidé. « Ah, voilà qui va mieux !» dit le patron en se laissant tomber dans la chaise devenue libre devant le feu et regardant Hebb qui mettait le couvert, deux assiettes de métal, des couteaux à manche de corne et des fourchettes aux dents de longueur anormale. « Enlevez vos bottes de mineur !» dit les eaux. « C'est pas la peine d'emplir la cabane de terre rouge. Allez, venez vous asseoir. » Son gigantesque associé s'approcha d'un air humble et s'assit sur un baril. « Qu'y a-t-il de nouveau ? » demanda-t-il. « Oh, les actions montent, » dit son compagnon. « Voilà ce qu'il y a. »« Les actions montent, » dit son compagnon. « Voilà ce qu'il y a. Regardez ça. » Et il tira de la poche de son habit, fumant, un numéro de journal froissé. « Voici la sentinelle de Burkhurst. Lisez cet article. Celui qui se rapporte à un filon qui donne un bon rendement dans la mine de Connemara. Nous sommes fortement engagés dans l'affaire, mon garçon. Nous pourrions vendre aujourd'hui et faire quelques bénéfices, mais je crois qu'il vaut mieux attendre. » Pendant qu'il parlait, Hebb déchiffrait laborieusement l'article en question, en suivant les lignes avec son gros index et marmottant sous sa moustache couleur de rouille. « 200 $ le pied, » dit-il en relevant la tête. « Hé, camarades, nous avons 100 pieds chacun. Ça nous ferait 20 000 $. Avec ça, on pourrait retourner au pays. » « Quelle sottise !» dit son compagnon. « Nous l'avons quitté pour venir amasser ici un peu mieux qu'un misérable millier de livres. L'affaire doit devenir encore meilleure. Sinclair, l'essayeur, s'est rendu sur place et il dit qu'il y a une des poches de quartz les plus riches qu'il ait jamais vues. C'est le bon temps de faire l'acquisition de machines à broyer. À propos, quel est le résultat de la journée ?» Hebb tira de sa poche une petite boîte de bois et la tendit à son camarade. Elle contenait la valeur d'une cuillère à thé de sable et un ou deux petits grains métalliques de la grosseur d'un poids tout au plus. Le patron Morgan se mit à rire et la rendit à son associé. « Oh, à ce compte-là, nous ne ferons pas notre fortune, les os, » dit-il. Il y eut une pause dans la conversation, pendant que les deux hommes écoutaient le vent qui tournait la petite cabane en hurlant et sifflant. « Et des nouvelles de Burkhurst ?» dit Hebb en se levant et se mettant en devoir d'extraire le contenu de la marmite. « Oh, pas grand-chose, » dit son compagnon. « Joe à l'œil de coq a été tué d'un coup de feu par Billy Crane dans le magasin de McFarlane. » « Ah ?» dit Hebb d'un air vaguement intéressé. « Les coureurs de la brousse sont en campagne et arrivés presque à la gare de Rochdale. On dit qu'ils vont se montrer par ici. » Le mineur sifflota en versant un peu de whisky dans une cruche. « Rien de plus ? » demanda-t-il. « Bon, rien d'important. Sinon que... les Noirs se sont un peu fait voir par là-bas vers la route de Sertling, et que l'essayeur a acheté un piano et qu'il va faire venir sa fille de Melbourne pour s'établir dans la maison neuve de l'autre côté de la route. Ah, si vous le voyez, mon garçon, nous avons quelque chose à voir, ajouta-t-il en s'asseyant et attaquant le plat qui lui était servi. On dit que c'est une beauté, les eaux, reprit-il. Bon, ce serait qu'un chiffon à coudre sur ma Susan, répliqua l'autre d'un ton décidé. Son associé sourit en regardant l'image aux couleurs criardes collées au mur. Soudain, il posa son couteau et parut écouter. Au milieu du grondement furieux du vent et de la pluie, passait un son sourd et roulant, qui évidemment ne venait pas de la lutte des éléments. « Qu'est-ce que c'est ? Oh, du diable, si je le sais !» Les deux hommes se dirigèrent vers la porte et sondèrent attentivement l'obscurité du regard. Bientôt, sur la route de Birkhurst, ils entrevirent une lumière mobile et le son sourd s'accrut. « Oh, c'est un buggy qui arrive, » dit Heb. « Où va-t-il ? Je sais pas. Sans doute il va traverser le gué. Mais, mon dame, il y aura 6 pieds d'eau au gué cette nuit, et un courant aussi violent qu'une chute de moulin. » Maintenant, la lumière était plus rapprochée. Elle se mouvait rapidement au tournant de la route. On entendait un galop furieux avec le chaos des roues. Mais les chevaux se sont emportés par le tonnerre. Mauvaise affaire pour l'homme qui est dedans. Il y avait chez les habitants de l'écluse de Harvey un rude sentiment d'individualité grâce auquel chacun supportait à lui seul le poids de ses mésaventures et sympathisait fort peu avec celle de son prochain. Ce qui prédominait chez les deux hommes, c'était uniquement la curiosité pendant qu'ils regardaient les lanternes se balancer, s'agiter à mesure qu'elles se rapprochaient sur les détours de la route. Mais s'il n'arrive pas à se rendre mètre d'eux avant qu'ils atteignent le gué, c'est un homme flambé, remarqua Hebdorton avec résignation. Une accalmie soudaine se fit dans le morne ruissellement de la pluie. Oh, elle ne dura qu'un moment, mais en ce moment, le vent apporta un long cri qui fit tressaillir les deux hommes, qui leur fit échanger un regard, puis les lança à toutes jambes sur la pente raide qui descendait vers la route. « Une femme par le ciel !» fit Heb d'une voix haletante, en franchissant d'un bond dans sa hâte téméraire la fosse d'une mine. Morgan était le plus léger, le plus agile des deux. Il eut bientôt devancé son athlétique compagnon, et une minute plus tard, il était debout, haletant la tête nue, dans la vase qui couvrait la route molle et détrempée, pendant que son associé descendait encore à grand-peine la pente très raide. La voiture était presque sur lui à ce moment. Il distinguait aisément, à la lumière des lanternes, le cheval australien au corps efflanqué, qui, terrifié par l'orage et le bruit qu'il faisait lui-même, se dirigeait à une allure folle vers le gué. L'homme qui conduisait vit sans doute devant lui la figure pâle et résolue de celui qui était debout sur la route, car il hurla quelques mots d'avertissement et fit un effort suprême pour retenir la bête. Il y eut un cri, un juron, un bruit de craquement, et Heb, accourant en bas, vit un cheval emporté au dernier degré de fureur qui se dressait avec rage, soulevant un corps svelte suspendu à la bride. Le patron, avec cette rapide intuition qui avait fait de lui en son temps le meilleur joueur de cricket, avait saisi la bride juste au-dessus du mort et s'y était cramponné avec une muette concentration de force. Une fois, il fut projeté sur le sol par un choc violent et sourd, pendant que le cheval portait brusquement la tête en avant avec un relâchement de triomphe, mais ce fut seulement pour s'apercevoir que l'homme, étendu à terre sous ses sabots de devant, maintenait son étreinte impitoyable. « Tenez-le, les os !» dit-il à un homme de haute taille qui se précipitait sur la route et saisissait l'autre bride. « Très bien, mon vieux, je le tiens !» Et le cheval, effrayé à la vue d'un nouvel assaillant, ne bougea plus et resta tout frissonnant d'épouvante. « Levez-vous, patron, il n'y a plus de danger à présent !» Mais le pauvre patron restait étendu, gémissant dans la boue. « Je ne peux pas, les os, dit-il avec une certaine vibration dans la voix, comme celle de la souffrance. « Il y a quelque chose qui ne va pas, mon vieux, mais faites pas de bruit. Oh, ce n'est que le contre-coup. Donnez-moi un coup de main. » Eb se pencha tendrement sur son compagnon gisant. Il put voir qu'il était très pâle et respirait difficilement. « Du courage, patron » murmura-t-il. « Hello, mes étoiles !» Les deux dernières exclamations jaillirent de la poitrine du brave mineur, comme si elles en étaient chassées par une force irrésistible, et tel fut son ébahissement qu'il recula de deux pas. Là, de l'autre côté de l'homme à terre, à demi enveloppé de ténèbres, se dressait une forme qui, pour l'âme simple d'Eb, apparut comme la plus belle vision qui se fût jamais montrée sur terre. Pour des yeux qui n'ont été accoutumés à se reposer sur rien de plus captivant que les figures rougeaudes et les barbes en broussailles des mineurs de l'écluse, il semblait que cette créature, si blanche, si délicate, ne pût être qu'une passagère venue de quelque monde plus beau. Haïb la contempla avec un respect plein d'admiration, au point d'en oublier un moment son ami, qui gisait contusionné sur le sol. « Oh, papa !» dit l'apparition d'une voix forte émue. « Il est blessé, le gentleman est blessé !» Et avec un geste rapide de sympathie féminine, elle se pencha sur le corps gisant du patron Morgan. « Tiens, mais c'est Eb d'Ayrton et son associé !» dit le conducteur du buggy en s'avançant, ce qui le fit reconnaître la figure grisonnante de M. John Sinclair, l'essayeur des mines. Je ne sais comment vous remercier, les gars. Cette affaire d'un animal a pris le mort au nord et j'ai vu le moment où il me fallait jeter Carrie par-dessus bord et risquer ensuite la même chance. Cela va bien ? Reprit-il en voyant Morgan se remettre debout tout chancelant. Pas trop de mal, j'espère. Oh, maintenant, je suis en état de remonter jusqu'à la cabane, dit le jeune homme en s'appuyant à l'épaule de son associé. Et comment ferez-vous pour conduire Miss Sinclair chez elle?
Oh, nous pouvons faire le trajet à pied, dit la jeune personne qui secoua les dernières traces de sa peur avec toute l'élasticité de son âge.
Oh, nous pouvons remonter en voiture et suivre la route en contournant la rive de manière à écarter le passage à gué, dit son père. Le cheval a l'air tout à fait calme à présent. Et vous n'avez plus rien à craindre. Alors, Carrie, j'espère que nous vous reverrons tous les deux à la maison. Ni elle ni moi, nous ne pourrons oublier l'événement de cette nuit. Miss Carrie ne dit rien. Mais elle trouva moyen de jeter un petit coup d'œil timide, plein de reconnaissance sous ses longs cils, un de ces coups d'œil qui eussent rendu à l'honnête Eb capable d'arrêter une locomotive. Puis on cria joyeusement « Bonne nuit !» Le fouet claqua et le buggy disparut à grand bruit dans l'obscurité.
« Vous m'avez dit, papa, que les gens étaient buteurs et sales. » fit Miss Sinclair après un long silence, quand les deux ombres noires furent effacées dans le lointain et que la voiture roulait tout le long de l'indocile torrent. « Je ne le trouve pas, ils me paraissent fort gentils. Et Carrie fut d'une tranquillité inaccoutumée pendant le reste de son voyage. Elle parut prendre mieux son parti du destin qui l'éloignait de sa chère amie Amélie, restée là-bas bien loin à la pension à Melbourne. Cela n'empêcha point d'écrire ce même soir à la dite jeune personne une longue lettre, franche, pleine de détails sur leur petite aventure. Ils ont arrêté le cheval, ma chère, et un de ces pauvres garçons a été blessé. Oh, ami, si vous aviez vu l'autre en chemise rouge, un pistolet à la ceinture, je n'ai pu m'empêcher de penser à vous, ma chère. Il était juste ce que vous imaginiez. Vous vous rappelez, une moustache blonde et de grands yeux bleus. Et comme il me dévisageait, pauvre créature. Vous n'avez jamais vu de gens pareils dans Baker Street, non, Amy? Et ainsi de suite, quatre pages de ce joli gazouillement féminin. Pendant ce temps, le pauvre patron, rudement secoué, avait remonté la côte avec l'aide de son associé et regagné l'abri de la cabane. Abe le soigna avec des remèdes empruntés à la modeste pharmacie du camp et lui banda son bas d'Emmy. Tous deux étaient des gens peu loquaces. Ni l'un ni l'autre ne fit allusion à ce qui s'était passé. Néanmoins, Blinky ne manqua pas de remarquer que son maître oubliait de faire ses dévotions ordinaires du soir devant l'hôtel de Susan Banks. Cet oiseau perspicace tira-t-il quelques conclusions de ce fait, ainsi que de cet autre, que les eaux resta longtemps l'air grave à fumer près du feu qui allait s'éteignant? Je ne sais. Qu'il suffise de dire que la chandelle finit par s'éteindre, que le mineur se leva de sa chaise, que son ami emplumé descendit se percher sur son épaule, et que, si elle ne lança point un ululement de sympathie, c'est qu'elle en fut empêchée par un signe d'avertissement qu'Abe lui fit du doigt, et aussi par l'instinct des convenances fort développé en elle. Si un voyageur de passage était arrivé dans les rues tortueuses de la ville de l'écluse de Harvey, peu de temps après la venue de Miss Sinclair, il aurait remarqué un changement considérable dans les manières et les costumes de ses habitants. Était-il dû à l'influence bienfaisante qu'exerce la présence d'une femme, ou avait-il pour cause l'émulation que faisait naître l'extérieur brillant d'Abdurton? Voilà qui est difficile à déterminer. Probablement les deux causes y concouraient ensemble. Il est certain que ce jeune homme avait senti soudain se développer en lui un goût de plus en plus prononcé pour la propreté et des égards pour les conventions de la vie civilisée qui provoquaient l'étonnement et les railleries de ses compagnons. Que le patron Morgan prît quelque soin de son extérieur, c'était une chose qui avait été rangée depuis longtemps au nombre des phénomènes curieux et inexplicables qui dépendent d'une première éducation, mais que ce grand dégingandé de l'Ezo, avec son laisser-aller, paradate en chemise propre, c'était un fait que tous les barbons de l'écluse regardaient comme un affront discret et prémédité. En conséquence, et comme mesure défensive, il y eut une séance de débarbouillement général après les heures de travail. L'épicerie fut envahie au point que le savon haussa jusqu'à un prix sans précédent et qu'il fallut en commander un réassortiment au magasin de McFarlane à Buckhurst. Mais est-ce que nous sommes ici dans un libre camp de mineurs ou dans une maudite école du dimanche? Ainsi se plaignait d'un ton indigné le grand McCoy, membre distingué du parti réactionnaire, homme qui avait persisté à marquer le pas pendant que le temps marchait, car il avait été absent pendant la période de régénération.
Mais ces protestations ne trouvèrent que peu d'écho, et au bout de 2 jours, l'aspect trouble de l'eau de la crique annonça sa capitulation, et elle fut confirmée par son apparition au bar colonial, où il montra une face luisante d'un air embarrassé. Sa chevelure exhalait un relent de graisse d'ours. « Bon, je me sens comme qui dirait dépaysé, » dit-il du ton d'un homme qui s'excuse, « mais j'ai voulu me rendre compte de ce qu'il y avait sous l'argile. » Et il se contempla d'un air approbateur dans le minoir fêlé qui embellissait la salle d'honneur de l'établissement. Notre visiteur fortuit aurait également remarqué une modification dans les propos de la population. En tout cas, dès que se montrait, même de loin, sous un certain petit chapeau fort coquet, une charmante et douce figure de fillette, parmi les puits hors de service et les amas de terre rouge qui déshonoraient les flancs de la vallée, on entendait des chuchotements de gens qui s'avertissaient, et aussitôt se dissipait partout le nuage de jurons qui était... Je regrette d'avoir à le constater, un trait caractéristique de la population travailleuse à l'écluse de Harvey. Pour que de telles choses arrivent, il ne faut qu'un commencement. Et il fut facile de remarquer que longtemps après la disparition de Miss Sinclair, il y eut un mouvement d'ascension dans le baromètre moral des fouilles. Les gens reconnurent par expérience que leur stock d'épithètes était moins borné qu'ils ne s'étaient habitués à le croire, et que les moins salés étaient parfois les plus propres à exprimer leurs pensées. Abe avait été autrefois regardé dans le camp comme un des appréciateurs les plus expérimentés de la valeur d'un minerai. On était d'abord, pour le croire, capable d'estimer avec une exactitude remarquable la quantité d'or que contenait un fragment de quartz. Toutefois, c'était là une erreur, sans quoi il n'eût point fait la dépense inutile de tant d'analyses d'échantillons sans valeur qu'il le faisait maintenant. Master Joshua Sinclair se vit encombré d'un tel arrivage de fragments de mica, de morceaux de roche contenant un pourcentage infinitésimal de métaux précieux, qu'il commençait à se faire une opinion très défavorable des aptitudes du jeune homme au travail des mines. On assure même qu'Abe, s'en allant un matin vers la maison un sourire d'espoir sur les lèvres, après s'être fouillé, tira du creux de son tricot une moitié de brique en faisant la remarque toute stéréotypée qu'à la fin il avait donné le coup de pic au bon endroit et qu'il était venu comme ça faire un tour et se faire donner une estimation en chiffres. Toutefois, comme cette anecdote n'a pas d'autre fondement que l'assertion toute gratuite de James Struggles, le loustique du camp, il peut se faire que les détails n'en soient pas d'une rigoureuse exactitude. Ce qui est certain, c'est que, soit par suite de ses visites professionnelles de la matinée, soit de celle qu'il faisait le soir comme voisin, le gigantesque mineur était devenu un des êtres familiers du petit salon dans la ville des Azalées, ainsi que se dénommait somptueusement la maison neuve de l'essayeur. Mais il se risquait rarement à prendre la parole en présence de la jeune personne qui l'occupait. Il se bornait à rester assis, tout à fait au bord de sa chaise, dans un état d'admiration muette, pendant qu'elle tapotait un air d'en transant sur le piano récemment importé. Et ses pieds l'entraînaient dans un endroit étrange, inattendu. Miss Carey en était venue à croire que les jambes d'Abbé agissaient d'une façon tout à fait indépendante du reste de son corps. Elle avait renoncé à se rendre compte pourtant,
Et pourquoi elle les rencontrait à un bout de la table pendant que leur propriétaire était à l'autre bout et s'excusait. Il n'y avait qu'un nuage à l'horizon mental du brave Lezo. C'était l'apparition périodique de Tom Ferguson le Noir, du bas de Rockdale. Ce jeune et rusé chant en lapin avait réussi à s'insinuer dans les bonnes grâces du vieux Joshua, et il faisait de très fréquentes visites à la villa. Des bruits fâcheux couraient au sujet de Tom le Noir. À l'écluse de Harley, on n'avait guère porté à la censure, et pourtant, on y sentait généralement que Ferguson était un homme à éviter. Il y avait néanmoins, dans ses manières, un élan téméraire, dans sa conversation, un pétillement qui charmait d'une façon irrésistible. Le patron lui-même, si difficile en pareille matière, en vint à cultiver sa société tout en se faisant une idée exacte de son caractère. Miss Carey parut accueillir sa venue comme un soulagement. Elle jasait pendant des heures à propos de livres de musique et des plaisirs de Melbourne. Dans telles occasions, le pauvre Lezo tombait au fin fond des abîmes du découragement, ou bien s'esquivait, ou restait à jeter sur son rival des regards empreints d'une malveillance sincère qui paraissait divertir beaucoup ce gentleman. Le mineur ne tint point secrète pour son associé l'admiration qu'il éprouvait pour Miss Sinclair. S'il était silencieux lorsqu'il se trouvait avec elle, il se montrait prodigue de paroles lorsqu'il était question d'elle dans la conversation. S'il y avait des flâneurs sur la route de Bergshurst, ils purent entendre, au haut de la côte, une voix de stentor lançant à toute volée un chapelet des charmes féminins. Il soumit ses embarras à l'intelligence supérieure du patron. « Ce fainéant de Rockdale, disait-il, on dirait que ça lui est naturel de dégoiser ainsi. Mais quant à moi, quand il s'agirait de ma vie, je ne trouve pas un mot. Dites-moi, patron, qu'est-ce que vous diriez à une demoiselle comme celle-là ? Eh bien, je pense que je lui parlerai des choses qui l'intéressent, dit son compagnon. Ben oui, voilà le difficile. Parlez-lui des habitudes de l'endroit et du pays, dit le patron en aspirant d'un air méditatif une bouffée de sa pipe. Racontez-lui des histoires de ce que vous avez vu dans les mines, des choses de ce genre. Mais vous feriez ça, vous ? Lui répondait son compagnon un peu encouragé. Si c'est de là que ça dépend, je suis son homme. Je vais aller là-bas maintenant, je lui parlerai de Chicago Bill, et je lui conterai comment il mit deux balles dans un homme au tournant de la route le soir du bal. Le patron Morgan éclata de rire. Ah non, ce ne serait guère à propos, dit-il. Si vous lui racontiez cela, vous lui feriez peur. Dites-lui quelque chose de plus léger, voyez-vous, quelque chose qui l'amuse, quelque chose de plaisant. De plaisant ? Dit l'amoureux inquiet d'un ton moins confiant. Mais comment, vous et moi, nous avons enivré Mark Roulin et l'avons mis dans la chaire du ministre à l'église baptiste et comme quoi le matin, il refusa de laisser entrer le prédicateur. Quel effet s'offrait-il, hein ? Oh, nom du ciel, dit son mentor tout consterné, mais n'allez pas lui raconter de ces sortes d'histoires. Elle n'adresserait plus la parole à vous ni à moi. Non, ce que je veux dire, ce serait de lui parler des habitudes des mines, de la façon dont on y vit, dont on y travaille, dont on y meurt. Si c'est une jeune fille sensée, cela devrait l'intéresser. Comment on vit dans les mines? Camarade, vous êtes bon pour moi. Comment on vit? Ah, voilà de quoi je peux parler avec autant d'entrain que Tom le Noir, que le premier venu. Ah, j'en ferai l'essai sur elle la première fois que je la verrai. À propos, dit son associé d'un air indifférent, ayez l'œil sur cet individu, ce Ferguson. Il n'a pas les mains très pures, vous savez, il ne s'embarrasse guère de scrupules quand il a quelque chose en vue. Vous vous rappelez, Dick Williams de la ville anglaise, qu'on a trouvé mort dans la brousse. On dit pourtant que Tom le Noir lui devait bien plus d'argent qu'il n'eût jamais pu le lui en payer. Il y a une ou deux choses singulières sur son compte. Ayez l'œil sur lui, Heb. Faites attention à ses actes. Je le ferai, dit son compagnon. Et il le fit. Il l'épia ce même jour. Il le vit sortir à grands pas de la maison de l'essayeur, la colère et l'orgueil déçus se manifestant dans les moindres détails de sa belle figure d'un brun foncé. Il le vit franchir d'un bond la palissade du jardin, suivre à longues et rapides enjambées les flancs de la vallée, tout en gesticulant avec fureur, pour disparaître ensuite dans les profondeurs de la brousse. Tout cela, Ab Durton le vit, et ce fut l'air pensif qu'il ralluma sa pipe et regagna lentement sa cabane au sommet de la côte. Mars tirait à sa fin. À l'écluse de Harvey, l'éclat aveuglant et la chaleur d'un été des antipodes s'étaient adoucis pour laisser paraître les teintes riches et si bien fondues de l'automne. Cette localité n'a jamais été agréable à voir. Il y avait je ne sais quoi de désespérément prosaïque dans ces deux crêtes dentelées, affaiblies, perforées par la main des hommes, avec les bras de fer des treuils, avec les seaux brisés, se montrant à toutes parts à travers les innombrables petits tertres de terre rouge. En bas, l'axe de la vallée était parcouru par la route de Burkhurst, aux profondes ornières, qui faisaient ses tours et détours, longeant et franchissant le ruisseau de Harper au moyen d'un pont de bois vermoulu. Au-delà de ce pont, se voyait le petit groupe de huttes avec le bar colonial et l'épicerie, dominant de toute la majesté de leur crépissage les humbles demeures d'alentour. La maison à véranda de l'essayeur s'élevait au-dessus des excavations du côté de la pente qui faisait face à ce spécimen d'architecture menaçant ruine, au sujet duquel notre ami Heb montrait une fierté si peu justifiée. Il y avait un autre édifice, susceptible de figurer dans la classe de ce qu'un habitant de l'écluse aurait pu qualifier d'édifice public, en le désignant par un mouvement de la main qui tenait sa pipe, comme s'il avait évoqué une perspective indéfinie de colonnades et de minarets. C'était la chapelle baptiste. Une modeste construction couverte en bardeaux, située près d'un coude de la rivière à environ 1 mille en avant de Caen. C'est là que la ville paraissait sous son aspect le plus avantageux, les contours durs et la crudité des couleurs étant un peu adoucis par l'éloignement. Ce matin-là, le ruisseau avait l'air joli avec ses méandres dans la vallée. Joli aussi le long plateau qui s'élevait à l'arrière-plan avec son vêtement de luxuriante verdure. Mais ce qu'il y avait de là de plus joli, ce fut Miss Sinclair. Lorsqu'elle posa à terre le panier de fougères qu'elle rapportait et s'arrêta au point culminant de la montée. Bon, on eût dit que tout n'allait pas au gré de cette jeune personne. Elle avait dans la physionomie une expression d'inquiétude qui contrastait étrangement avec son air habituel de piquante insouciance. Quelque ennui récent avait laissé ses traces sur elle. Peut-être était-ce pour le dissiper par une promenade qu'elle était allée errer par la vallée. En tout cas, il est certain qu'elle respirait les fraîches brises des bois, comme si leur arôme résineux lui faisait l'effet de quelque antidote contre la souffrance humaine. Elle resta quelque temps à contempler le panorama qui s'étendait devant elle. De là, elle pouvait apercevoir la maison paternelle, petite tache blanche à mi-côte, et cependant, chose assez étrange, ce qui semblait attirer surtout son attention, c'était une bande de fumée bleue qui montait du versant opposé. Elle restait là, la regardait, la curiosité dans ses yeux couleur de noisette. Alors on eût dit que l'isolement de la situation le frappait. Elle éprouva un de ces accès violents de terreur inconsciente auxquels sont sujettes les femmes les plus courageuses. Des histoires d'indigènes, de coureurs de la brousse, de leur audace et de leur cruauté passèrent dans son esprit comme des éclairs. Elle considéra la vaste et mystérieuse étendue de la brousse qui se déployait près d'elle, puis se baissa pour ramasser son panier, dans l'intention de regagner au plus vite la route, dans la direction des tranchées de mines. Elle tressaillit et eut de la peine à retenir un cri, en voyant un long bras à manches de chemise rouge apparaître derrière elle et lui prendre son panier dans ses propres mains. L'individu qui se présentait à ses yeux eût paru à certaines gens peu fait pour dissiper ses craintes. Les grandes bottes, la grossière chemise, la large ceinture garnie de ses armes de mort, tout cela sans doute était familier à Miss Curry pour lui causer de la frayeur, mais quand elle vit, au-dessus de ces objets, une paire d'yeux bleus la regardait avec tendresse, et un sourire assez timide, qui se dissimulait sous une épaisse moustache blonde, elle comprit que, pendant tout le reste de sa promenade, coureur de brousse et indigène serait également hors d'état de lui faire aucun mal. « Oh, monsieur d'Horton, dit-elle, comme vous m'avez surprise !»« J'en suis fâché, miss, dit Hab, tout tremblant d'avoir causé à son idole un seul instant d'inquiétude. « Vous voyez, reprit-il avec une ruse naïve, comme il faisait beau temps et que mon associé est parti pour prospecter, j'ai cru que je pouvais me permettre une promenade à Grey Hill en revenant par la grande courbe, et voilà que je vous trouve par hasard, par pur hasard, debout sur cette côte. » Le mineur débita avec une grande volubilité ce mensonge effronté. Il y avait dans le ton de sa voix une franchise si bien imitée qu'elle décelait immédiatement la supercherie. Les os l'avaient composée et apprise par cœur, tout en suivant la trace laissée dans l'argile par les petites bottines, et regardait son invention comme le dernier mot de l'ingéniosité humaine. Miss Curry ne jugea pas à propos de risquer une observation, mais il brillait dans ses yeux une expression d'amusement qui intrigua son amoureux. Hem était fort en train ce matin-là. Était-ce l'effet du beau soleil? Était-ce la hausse rapide des actions dans le Connemara qui lui rendait le corps si léger? Je suis cependant porté à croire que ce n'était ni l'une ni l'autre des deux causes. Si simple qu'il fût, la scène dont il avait été témoin la veille ne pouvait l'amener qu'à une seule conclusion. Il se voyait descendant à pas rapides la vallée en des circonstances analogues, et il avait dans le cœur de la pitié pour son rival. Il se sentait parfaitement certain que cette figure de mauvais augure, ce monsieur Thomas Fergusson, duguay de Rochdale, ne se montrerait plus dans l'enceinte de la villa des Azalées. Alors pourquoi l'avait-elle renvoyé? Il était beau, il était fort à son aise. Se pouvait-il que... Oh non, c'était impossible, naturellement, c'était impossible. Comment la chose était-elle été possible? Cette idée-là était ridicule. D'un ridicule tel qu'elle avait fermenté toute la nuit dans le cerveau du jeune homme, qu'il n'avait pu s'empêcher d'y réfléchir toute la matinée et de la porter avec lui dans son âme agitée. Ils descendirent ensemble le sentier de cette terre rouge, puis suivirent le bord du ruisseau. Eb était retombé dans le silence, qui était son état normal. Il avait fait un effort courageux pour tenir bon sur le terrain des fougères, se sentant encouragé par le panier qu'il tenait à la main, mais ce n'était point un sujet passionnant, et après une série d'efforts décroissants, il avait abandonné sa tentative. Pendant qu'il avait fait le trajet, il s'était senti l'esprit plein d'anecdotes piquantes, d'observations plaisantes. Il avait repassé un nombre infini de remarques qu'il devait conter à Miss Sinclair, si capable de les apprécier. Mais à ce moment-là, on eût dit que le vide s'était fait dans son cerveau et qu'il n'y restait plus trace d'aucune idée, si ce n'est une tendance folle et irrésistible de faire des commentaires sur la chaleur que donnait le soleil. Jamais astronome ne fut si occupé du calcul d'une parallaxe et si complètement absorbé par ses pensées sur la constitution des corps célestes que l'était le brave Lézo, pendant qu'il suivait le cours paresseux de la rivière australienne. Soudain, son entretien avec son associé lui revint à l'esprit. Qu'avait-il donc dit le patron? « Donne-lui des détails sur le genre de vie des mineurs. » Il tourna et retourna mentalement la chose. C'était, semble-t-il, un singulier sujet de conservation. Mais le patron l'avait affirmé, et le patron avait toujours raison. Bon, il ferait le saut. Il commença donc en bredouillant, après une toux préliminaire. Les gens de la vallée se nourrissent surtout de lard et de pois. Il lui fut impossible de juger de l'effet produit sur sa compagne par cette communication. Il était de trop haute taille pour pouvoir regarder par-dessous le petit chapeau de paille. Elle ne répondit pas. Il ferait une nouvelle tentative. « Du mouton ou le dimanche, se dit-il. » Mais cette nouvelle ne produisit aucun enthousiasme. Elle avait l'air même de rire. Évidemment, le patron s'était trompé. Oh, le jeune homme était au désespoir. La vue d'une cabane en ruine au bord du sentier fit éclore une idée nouvelle. Il s'y raccrocha comme un homme qui se noie, se raccroche à un fétu. C'est Cockneley Jack qui l'a bâti. De quoi est-il mort? Demanda sa compagne. Du brandy, marque 3 étoiles, dit Hub d'un ton décidé. J'avais l'habitude de venir m'y asseoir et de rester près de lui quand il était pris. Pauvre garçon! Il avait une femme et 2 enfants à Punchy. Il délirait. Il m'appelait Polly pendant des heures. Oh, il était rincé à fond. Il ne restait plus un rouge liard. Mais les camarades récoltèrent assez d'or brut pour lui faire des funérailles. Il est enterré dans cette fosse que voilà. C'était son Clem. Nous n'avons eu qu'à l'y descendre et à combler le trou. Nous y avons mis aussi son pic, une pelle et un seau, de sorte qu'il se sentira un peu plus à l'aise et chez lui. Miss Carrie paraissait plus intéressée maintenant. « Est-ce qu'il en meurt beaucoup de cette façon ?» demanda-t-elle. « Oh oui, le brandy en tue beaucoup, mais il y en a davantage qui sont descendus, enfin, tués d'une balle, vous savez. » « Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent ainsi dans la misère et la solitude, sans que personne soit là pour s'occuper d'eux ?» Et elle indiqua du doigt le groupe de maisons qui se trouvait en bas devant eux. « Y a-t-il quelqu'un qui soit maintenant en train de mourir ? C'est une chose terrible. » « Oh, il n'y a personne qui soit présentement sur le point de casser son pic. Bon, »« Non, je vous demanderai, monsieur Durton, de ne pas employer tant d'expressions d'argot, » dit Carrie en le regardant de ses yeux violets. C'était étonnant à quel point cette jeune personne arrivait peu à peu à prendre des airs de propriétaire à l'égard de son gigantesque compagnon. Vous savez que ce n'est pas poli. Il faut vous procurer un dictionnaire et apprendre les termes propres. Mais, dit les autres d'un ton d'excuse, c'est justement le terme propre. Quand vous n'êtes pas en mesure d'avoir un perforateur à vapeur, il faut vous y résigner à empouiller le pic. Oui, mais c'est chose facile si vous y mettez de la bonne volonté. Vous pourriez dire qu'un homme est mourant ou moribond, si vous aimez mieux. Ben, c'est ça, dit le mineur enthousiasmé. Moribond, oh, voilà un mot. Oh, vous pourriez damner le pire au patron Boréal en fait deux mots. Moribond, voilà un mot qui sonne bien. Carrie se mit à rire. Ce n'est pas au son que vous devez songer. Il faut vous demander si le mot exprime bien votre pensée. Pour parler sérieusement, monsieur Durton, si quelqu'un tombait malade dans le camp, il faut que vous m'en informiez. Je sais donner des soins et je peux rendre quelques services. Vous le ferez, n'est-ce pas ? Abby consentit avec empressement, et retombant dans le silence, il réfléchit à la possibilité de s'inoculer quelques maladies longues et ennuyeuses. On avait parlé à Buckhurst d'un chien enragé. Il y aurait peut-être moyen d'en tirer parti. Et maintenant, il faut que je vous dise bonjour, dit Carrie, quand on fut arrivé à un endroit où un sentier faisant le crochet partait de la route pour aboutir à la villa des Azalées. « Je vous remercie infiniment de m'avoir escorté. » Eve demanda en vain qu'on lui permît de faire les 100 yards de plus et employa en vain l'argument écrasant du mignon petit panier qui s'offrait à porter. Non, la jeune femme fut exilagrable, elle l'avait déjà trop éloigné de son chemin. Elle en était confuse, elle ne voulut rien entendre. Le pauvre Lézo dut donc s'en aller, éprouvant un mélange confus de sentiments. Il l'avait intéressée, elle lui avait parlé avec bonté, mais elle l'avait renvoyée avant que cela fût indispensable. Si elle avait agi ainsi, c'est qu'elle ne se souciait pas beaucoup de lui. Je crois pourtant qu'il se serait senti un peu plus de courage s'il avait vu Miss Sinclair pendant que, debout à la grille du jardin, elle le regardait s'éloigner, ayant une expression affectueuse sur sa figure mutine et un sourire plein de malice à le voir partir la tête penchée, l'air découragé. Le bar colonial était le rendez-vous favori des habitants de l'église de Harvey pendant leurs moments de loisir. Il y avait eu une vive concurrence entre ce bar et l'établissement rival appelé l'épicerie, et qui, en dépit de son innocente dénomination, aspirait à vendre aussi des rafraîchissements spiritueux. L'introduction de chaises dans ce dernier avait fait apparaître dans le premier un divan. Des crachoirs furent introduits au bar, le jour où un tableau fit son entrée à l'épicerie, et alors, comme le dirent les clients, la première manche fut gagnée. Toutefois, l'épicerie, ayant arboré les rideaux, pendant que son concurrent inaugurait un cabinet particulier et un miroir, il fut décidé que ce dernier avait gagné la partie, et l'écluse de Harvey montra combien elle appréciait le zèle du propriétaire en retirant sa clientèle à son adversaire. Bien que le premier venu eût le droit de s'aventurer dans le bar et de se prélasser sous le papillotement de ses bouteilles aux couleurs variées, il était admis tacitement, mais généralement, que le cabinet particulier ou boudoir était réservé à l'usage des citoyens les plus en vue. C'était dans cette pièce que se réunissaient les comités qu'étaient conçus et mis au monde d'opulentes compagnies que se faisaient ordinairement les enquêtes. Cette dernière cérémonie, j'ai le regret de le dire, était assez fréquente à l'écluse vers 1861, et les conclusions du coroner se faisaient parfois remarquer par une saveur et une originalité fort piquantes. Pour n'en citer qu'un exemple, quand Burke le pourfendeur, un bandit de notoriété, fut abattu d'un coup de feu par un jeune médecin aux façons tranquilles, un jury sympathique déclara que le défunt avait rencontré la mort dans une tentative imprudente qu'il avait faite pour arrêter dans son trajet une balle de pistolet. Dans le camp, on regarda ce verdict comme un chef-d'œuvre de jurisprudence en ce qu'il déchargeait le coupable, tout en respectant rigoureusement, incontestablement, la vérité. Ce soir-là, il y avait dans le petit salon une réunion de notabilité, quoiqu'elle n'y fût point été amenée par une cérémonie pathologique de ce genre. Il était survenu, en ces derniers temps, maints changements qui méritaient discussion, et c'était dans cette pièce, somptueusement meublé d'un divan et d'un miroir, que l'écluse de Harvey avait coutume d'échanger ses idées. Les habitudes de propreté qui commençaient à s'établir dans la population causaient encore quelque agitation dans les esprits de plusieurs. Puis il y avait des commentaires à faire sur Miss Sinclair, ses allées et venues, sur le filon riche du Connemara, sur les bruits récents relatifs aux couleurs de la brousse. Il n'avait donc rien d'étonnant à ce que les notables de la ville se fussent réunis au bar colonial. Les coureurs de la brousse étaient en ce moment-là l'objet de la discussion. Depuis quelques jours, on parlait de leur présence et la colonie éprouvait un sentiment de malaise. La crainte physique est chose peu connue à l'écluse de Harley. Les mineurs se seraient mis en campagne pour faire une chasse à mort aux brigands. Ils s'y seraient livrés avec autant d'entrain que s'il était agi de tuer un même nombre de kangourous. Ce qui causait leur inquiétude, c'était la présence d'une grande quantité d'or dans la ville. Ils étaient décidés à mettre en sûreté à tout prix le fruit de leur travail. Des messages avaient été envoyés à Buckhurst pour faire venir tous les soldats disponibles. En attendant, la rue principale de l'écluse était parcourue chaque nuit par des patrouilles de bonne volonté. La panique avait augmenté de nouveau à la suite des nouvelles rapportées le jour même par Jim Struggles. Jim était d'un caractère ambitieux et entreprenant, et après avoir passé quelque temps à considérer avec dégoût le résultat de son travail de la dernière semaine, il avait secoué, métaphoriquement s'entend, la poussière de l'argile de l'écluse, et il était parti pour les bois dans l'intention de prospecter aux environs jusqu'à ce qu'il trouvât un endroit à sa convenance. Jim me racontait qu'étant assis sur un tronc d'arbre tombé en train de prendre son repas de midi, composé de liquide et de lard rance, son oreille exercée avait perçu le bruit de sabots de chevaux. Il avait eu à peine le temps de s'allonger à terre derrière l'arbre qu'une troupe de cavaliers traversa le bois et passa à un jet de pierre de lui. « Il y avait là Bill Smithson et Murphy Duff, » dit-il. C'étaient les noms de deux bandits bien connus. « Il y en avait trois autres que je n'ai pas très bien vus. Ils ont pris la piste de droite. Ils avaient l'air d'être partis en expédition pour tout de bon, leurs fusils en main. » Jim fut soumis ce soir-là à un interrogatoire minutieux, mais rien ne put le faire varier dans sa déposition, ni ajouter quelque clarté à ce qu'il avait vu. Il raconta l'histoire plusieurs fois et à de longs intervalles, mais bien qu'il y eût peut-être d'agréables variations dans les détails, les faits essentiels restaient toujours les mêmes. La chose commençait à prendre une tournure sérieuse. Il y en eut toutefois qui exprimèrent bruyamment leurs doutes au sujet de l'existence de coureurs de la brousse. Parmi ceux qui se firent ainsi le plus remarquer était un jeune homme perché sur un baril au milieu de la pièce. C'était évidemment un des membres influents de la population. Nous avons déjà vu cette chevelure noire et bouclée, cet œil sans éclat, cette lèvre cruelle, chez Tom Ferguson le Noir, prétendant évincer de Miss Sinclair. Où il était aisé de le distinguer du reste de l'assemblée, grâce à son complet à carreaux et à d'autres indices d'un caractère efféminé que fournissait son costume et qui aurait pu lui procurer une fâcheuse réputation. Mais, comme l'associé d'Eb, il s'était fait le bonheur connaître pour un homme capable de tout sans en avoir l'air. Dans la circonstance actuelle, il paraissait être, jusqu'à un certain point, sous l'influence de la boisson, fait fort rare chez lui, et qu'il fallait probablement mettre sur le compte de son échec récent. Il mettait un véritable emportement à combattre Jim Struggles et son récit. « C'est toujours la même chose, disait-il, qu'un homme rencontre dans la forêt quelques voyageurs. Il n'en faut pas davantage pour qu'il perde la tête et vienne raconter des histoires de coureurs de la brousse. S'ils avaient aperçu Jim Struggles en cet endroit, ils seraient partis avec des histoires à n'en plus finir, d'un coureur de brousse vu par eux derrière un arbre. Quant à reconnaître des hommes qui vont à cheval et vite parmi des troncs d'arbres, oh, c'est une impossibilité. » Mais Struggles s'obstinait à soutenir sa première assertion, et les sarcasmes, les arguments se brisaient sur l'épaisseur invulnérable de sa placidité. On remarqua que Ferguson avait l'air singulièrement ennuyé de toute cette affaire. On eût dit aussi que quelque chose pesait sur son esprit, car de temps à autre, il se levait brusquement, arpentait la pièce en long et en large, sa figure brune animée d'une expression très menaçante. Tous éprouvèrent un vrai soulagement quand il prit brusquement son chapeau et, disant sèchement bonsoir à la compagnie, sortit, traversa le bar et s'en alla par la rue. Il a l'air comme qui dirait désappointé, dit McCoy le long. Il ne peut pas avoir peur des coureurs de la brousse, assurément, dit John Shames, autre personnage d'importance et principal actionnaire de l'île Dorado. Non, c'est pas un homme à avoir peur, répondit un autre. Voici un jour ou deux qu'il a l'air tout singulier. Il fait de longues tournées dans les bois, sans emporter aucun outil. On dit que la fille de l'essayeur l'a envoyé promener. Elle a parfaitement bien fait. Elle est bien trop jolie pour lui, remarquèrent plusieurs voix. Ce serait bien drôle qu'il n'y eût pas un autre tour dans son sac. C'est un homme difficile à battre quand il s'est mis quelque chose en tête. Abderton est le cheval gagnant, remarqua Houlahan, un petit Irlandais barbu. Je parie 7-4 pour lui. Oh, vous tenez donc bien à perdre votre argent, l'ami, dit un jeune homme en riant. Il lui faut un homme qui eut plus de cervelle que les os, n'en eut jamais. Voulez-vous parier? Qui a vu les os aujourd'hui? Demanda McCoy. Je l'ai vu, dit le jeune mineur, il allait de tous côtés, demandant un dictionnaire. Probablement il avait une lettre à écrire. Ben oui, je l'ai vu en train de le lire, dit Shems. Il est venu me trouver et m'a dit qu'il avait trouvé du premier coup quelque chose de bon. M'a montré un mot presque aussi long que votre bras, abdiqué, enfin, quelque chose dans le genre.
C'est aujourd'hui un Richard, je suppose, conclut l'Irlandais.
Ouais, il a presque fait son magot. Il possède 100 pieds dans le Connemara et les actions montent d'heure en heure. Oh, s'il vendait, il serait en état de retourner au pays. Je parie qu'il compte emmener quelqu'un au pays avec lui, dit un autre. Le vieux Joshua ne ferait pas de difficulté vu que l'argent est là. Je crois avoir déjà rapporté dans ce récit que Jim Struggle, le prospecteur ambulant, s'était fait la réputation d'homme spirituel du camp. Il avait conquis cette réputation non seulement par ses propos légers et plaisants, mais encore par la conception et l'exécution de farces plus compliquées. Son aventure du matin avait causé une certaine stagnation dans le cours habituel de son humour. Mais la société et la boisson le remettaient peu à peu dans un état plus gai. Depuis le départ de Ferguson, il avait couvé en silence une idée qu'il se disposait à exposer à ses compagnons attentifs. « Dites donc, les enfants, commença-t-il, « quel jour sommes-nous ?»« Ben vendredi, n'est-ce pas ?»« Non, 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 pas ça. Quel jour du mois ?»« Oh, le diable m'emporte si je le sais. »« Eh bien, je vais vous le dire. Nous sommes au 1er avril. »« J'ai trouvé dans la cabane un calendrier qui le dit. »« Ben, qu'est-ce que ça fait ?» firent plusieurs voix. Eh bien, ne le savez-vous pas, mais c'est le jour des farces. Ne pourrions-nous pas en arranger une pour quelqu'un? Ne pourrions-nous pas nous en divertir un peu? Eh bien, voilà le vieux Lézot, par exemple. Il ne se méfiera de rien.
Ne pourriez-nous pas le faire aller quelque part et le regarder marcher? Nous aurions ensuite de quoi le blaguer pendant un grand mois. » Il y eut un murmure général d'assentiment. Une farce, si piteuse qu'elle fût, était toujours bienvenue à l'écluse. Plus l'esprit en était pâteau, plus elle était appréciée. Dans les fosses d'exploitation, on ne va point jusqu'à une délicatesse morbide de sensation. « Mais où l'enverrons-nous ? » se demanda-t-on. Depuis un instant, Jim Struggle s'était plongé dans ses pensées. Puis une inspiration sacrilège parut lui venir. Il partit d'un ton bruyant éclat de rire, se frotta les mains entre les genoux, tant il était content. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» demanda l'auditoire pressé. « Ben voici, les enfants. Voilà Miss Sinclair. Vous disiez qu'elle en est fou. Vous pensez bien qu'elle ne fait pas grand cas de lui. Supposez que nous lui écrivions un billet, que nous le lui envoyions ce soir, voyez-vous. « Eh bien, quoi alors ?» fit McCoy. « Eh bien, on dirait que le billet vient d'elle. On mettrait son nom en bas. On mettrait qu'elle veut le voir et qu'elle lui donne un rendez-vous à minuit dans le jardin. Il manquera pas d'y aller. Il croira qu'elle veut se sauver avec lui. Ce sera la plus belle farce jouée de cette année. » Éclat de rire général. L'évocation de ce tableau, l'honnête Lézo faisant le pied de grue au clair de lune dans le jardin, et le vieux Joshua sortant pour le réprimander, un fusil à deux coups à la main. Oh, c'était un comique irrésistible. Le plan fut approuvé à l'unanimité. « Voici un crayon et voici du papier, » dit l'humoriste. « Qu'est-ce qui va écrire la lettre ?»« Ben, écrivez-la vous-même, Jim, » dit James. « Bon, qu'est-ce que je dirais ?»« Ben, dites ce qui vous paraîtra convenable. »« Ben, je sais pas comment elle s'exprimerait, » dit Jim en se grattant le front, fort perplexe. « Oh, il est vrai que les os... ne s'apercevra pas de la différence. Et ceci fera-t-il l'affaire? Cher vieux, venez ce soir à minuit au jardin, autrement je ne vous adresserai plus la parole. Hein? Non, 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 ce n'est pas le style qu'il faut, dit le jeune mineur. Rappelez-vous que c'est une demoiselle qui a reçu de l'éducation. « Faut mettre ça, comme qui dirait, dans un genre fleuri, bien tendre. »« Eh bien, écrivez ça vous-même, » dit Jim, sur un ton maussade en lui faisant passer le crayon. « Voici ce qu'il faut, » dit le mineur, en mouillant la pointe avec ses lèvres. « Quand la lune est dans le ciel... »« Oh, c'est bien, ça c'est magnifique !» fit l'assistance. Et que les étoiles envoient leur éclat brillant. Venez, oh, venez me trouver, Adolphus, à la porte du jardin, à minuit. Ben, il s'appelle pas Adolphus, objecta un critique. Mais c'est comme ça qu'on fait en poésie, dit le mineur. C'est comme qu'il irait fantastique, voyez-vous. Ça vous a un autre son que Heb. Rapportez-vous-en à lui pour deviner ce que ça veut dire. Je vais signer ça, Carrie. Voilà. Cette épître passa gravement de main en main et fit le tour de la chambre. On la contempla avec le respect dû à une production aussi remarquable du cerveau de l'homme. Elle fut ensuite pliée et confiée aux soins d'un petit garçon qui reçut, avec accompagnement de terribles menaces, l'ordre de la porter à la cabane et de s'esquiver avant qu'on eût eu le temps de lui poser des questions embarrassantes. Ce fut seulement quand il eut disparu dans l'obscurité qu'un peu ou bien un peu de componction se fit jour dans l'âme d'un ou deux assistants. « N'est-ce pas jouer un vilain tour à la demoiselle ?» dit Shams. « Bon, il se montrait assez cruel pour le vieux les os, » suggéra un autre. Mais la majorité passa outre à ces objections, qui furent noyées complètement sous une nouvelle tournée de whisky. L'on ne songeait presque plus à la chose au moment où Webb reçut la missive et se mit à l'épeler, le cœur palpitant, à la lueur de sa chandelle solitaire. Cette nuit-là a laissé un long souvenir à l'écluse de Harvey. Une brise capricieuse descendait des montagnes lointaines en gémissant et soupirant sur les clèmes déserts. Des nuages noirs passaient rapidement sur la lune, jetant leur ombre sur le paysage terrestre et ensuite laissant reparaître la lueur argentée, froide, claire, sur la petite vallée, baignant d'une lumière étrange, mystérieuse, la vaste étendue de la brousse qui se développait des deux côtés. Une grande solitude semblait reposer sur la face de la nature. Les gens se rappelèrent plus tard cette atmosphère fantastique, magique, qui enveloppait la petite ville. Il faisait très noir quand Heb quitta sa petite cabane. Son associé, le patron Morgan, était encore absent, resté dans la brousse, de sorte qu'à part toujours la vigilante Blinky, il n'y avait pas un être vivant qui put épier ses allées et venues. Il éprouvait une douce surprise en son âme simple à songer que les doigts mignons de son ange avaient pu tracer ces grands hiéroglyphes alignés, mais le nom était au bas et cela lui suffisait. Elle le demandait, peu importe pourquoi, et ce rude mineur partait à l'appel de son amour avec l'héroïsme d'un chevalier errant. Il gravit tant bien que mal la route montante et tortueuse qui conduisait à la villa des Azalées. Un petit massif d'arbrisseaux et de buissons se dressait à environ 50 yards de l'entrée du jardin. Heb s'y arrêta un instant pour reprendre sa présence d'esprit. Il était à peine minuit et il n'avait devant lui que quelques minutes. Il s'assit sous leur voûte sombre et pia la maison blanche qui se dessinait vaguement devant lui. C'était une maisonnette bien simple aux yeux d'un prosaïque mortel, mais elle était enveloppée, pour ceux de l'amoureux, d'une atmosphère de respect et de vénération. Le mineur, après cette station à l'ombre des arbres, se dirigea vers la porte du jardin. Il n'y avait personne. Évidemment, il était venu un peu trop tôt. À ce moment, la lune brillait de tout son éclat et l'on voyait les environs aussi clairement qu'en plein jour. Heb regarda de l'autre côté de la petite villa et vit la route, qui apparaissait comme une ligne blanche et tortueuse jusqu'au sommet de la côte. Si quelqu'un s'était trouvé là pour les pieds, il eût pu voir sa carrure d'athlète se dessiner nettement en contours précis. Alors, il eut un mouvement brusque, comme s'il venait de recevoir une balle, et il chancela, s'appuya à la petite porte qui se trouvait près de lui. Il avait vu une chose qui fit pâlir encore sa figure tannée par le soleil et déjà pâlie à la pensée de la jeune fille qui était si près de lui. À l'endroit même où la route faisait une courbe, et à moins de 200 yards de distance, il voyait une masse noire se mouvant sur la courbe et perdue dans l'ombre de la colline. Cela ne dura qu'un moment, mais ce moment suffit à son coup d'œil exercé de forestier, à sa rapidité de perception, pour se rendre compte de la situation dans tous ses détails. C'était une troupe de cavaliers qui se dirigeait vers la villa. Et quels pouvaient être ces cavaliers nocturnes, sinon les gens qui terrifiaient le pays forestier, les redoutés coureurs de la brousse? Alb était, il faut le dire, d'une intelligence lente et se mouvait lourdement dans les circonstances ordinaires. Mais à l'heure du danger, il était aussi remarquable par son sang-froid et sa résolution que par sa promptitude à agir d'une manière décisive. Tout en s'avançant à travers le jardin, il calcula les chances qu'il avait contre lui. Selon l'évaluation la plus modérée, il avait une demi-douzaine d'adversaires, tous genre déterminés à tout et ne redoutant rien. Il s'agissait de savoir s'il pourrait les tenir pendant un instant en échec et les empêcher de pénétrer par force dans la maison. Nous avons déjà dit que des sentinelles avaient été postées dans la rue principale de la ville. Eb se dit qu'il arriverait de l'aide moins de 10 minutes après le premier coup de feu. S'il s'était trouvé dans l'intérieur de la maison, il aurait été sûr de tenir bon plus longtemps que cela, mais les coureurs de la brousse arrivaient sur lui avant qu'il eût pu réveiller les habitants endormis et se faire ouvrir. Il devait se résigner à faire de son mieux. En tout cas, il prouverait à Carrie que, s'il ne savait pas lui parler, il était du moins capable de mourir pour elle. Cette idée fit passer en lui une vraie flamme de plaisir pendant qu'il rampait dans l'ombre de la maison. Il arma son revolver. L'expérience lui avait appris l'avantage d'être le premier à tirer. La route par laquelle arrivaient les coureurs de la brousse aboutissait à une porte de bois donnant sur le haut du petit jardin de l'essayeur. Cette porte était flanquée à gauche et à droite d'une haute haie d'acacia et s'ouvrait sur une courte allée bordée également d'une muraille infranchissable d'arbustes épineux. Elle connaissait parfaitement la disposition des lieux. À son avis, un homme résolu pouvait barrer le passage pendant quelques minutes jusqu'au moment où les assaillants se feraient jour par quelque autre endroit et le prendraient par derrière. En tout cas, c'était sa chance la plus favorable. Il passa devant la porte de la façade, mais s'abstint de donner l'alarme. Sinclair était un homme assez avancé en âge et ne pouvait lui être bien utile dans un combat désespéré comme celui auquel il s'attendait, et l'apparition de lumière dans la maison avertirait les brigands de la résistance qu'on se préparait à leur faire. Ah, que n'avait-il auprès de lui son associé, le patron Chicago Bill? N'importe lequel des vaillants hommes qui auraient accouru à son appel et seraient rangés à ses côtés en une pareille lutte. Il fit demi-tour dans l'étroite allée. Voici la porte de bois qu'il connaissait très bien, et là-haut, perché sur la traverse, un homme, dans une attitude languissante, balançait ses jambes et épiait sur la route qui s'étendait devant lui. C'était Master John Morgan, celui-là même qu'Abe appelait du plus profond de son cœur. Le temps manquait pour de longues explications. En quelques mots hâtifs, le patron dit qu'en revenant de sa petite excursion, il avait croisé les coureurs de la brousse partis à cheval pour leur expédition ténébreuse. Il avait surpris des propos qui lui avaient fait connaître le but. En courant à toutes jambes et grâce à sa connaissance du pays, il était parvenu à les devancer. « Oh, pas le temps de donner l'alarme » expliqua-t-il tout haletant de son récent effort. « Il faut les arrêter nous-mêmes. Pas venu pour faire le galop, venu pour votre jeune fille. N'arriveront que par-dessus nos corps, hein, les eaux. » Et après ces quelques mots jetés d'une voix entrecoupée, ses deux amis, si étrangement assortis, se donnèrent une poignée de main, échangèrent un regard de profonde affection, pendant que la brise parfumée des bois leur apportait le bruit des pas des chevaux. Il y avait 6 brigands en tout. L'un d'eux, qui paraissait l'être chef, marchait en avant. Les autres venaient derrière, formant un groupe. Arrivés devant la maison, ils mirent leurs chevaux à l'attache à un petit arbre, après quelques mots dits à voix basse par leur capitaine, et s'avancèrent avec assurance vers la porte. Le patron Morgan et Abe étaient accroupis dans l'ombre de la haie, tout au bout de l'allée. Ils étaient invisibles pour les bandits, qui évidemment s'attendaient de ne rencontrer qu'une faible résistance dans cette maison isolée. Comme l'homme de tête qui s'était avancé se tournait à moitié pour donner un ordre à ses camarades, les deux amis reconnurent le profil dur et la grosse moustache de Ferguson le Noir, le prétendant refusé par Miss Carey Sinclair. L'honnête Heb jura mentalement que celui-là du moins n'arriverait pas vivant jusqu'à la porte. Le bandit s'avança jusqu'à cette porte et mit la main sur le loquet. Il sursauta en entendant une voix de stentor crier « Arrière !» du milieu des buissons. En guerre comme en amour, le mineur était homme peu bavard. « On ne passe pas par ici !» expliqua une autre voix au timbre d'une tristesse et d'une douceur infinie, ainsi qu'elle l'était toujours, quand son possesseur avait le diable dans le corps. Le coureur de la brousse reconnut cette voix. Il se rappelait l'allocution prononcée d'une voix molle et languissante qu'il avait entendue dans la salle de billard des armes de Mercerhurst. Allocution qui s'était terminé comme suit, le doux orateur s'était adossé à la porte, avait sorti un revolver et avait demandé à voir le filou qui aurait l'audace de se frayer un passage. De ce maudit imbécile de Norton et son ami à la face blanche, dit-il. Ces deux noms étaient fort connus à la ronde, mais les coureurs de la brousse étaient des hommes téméraires et décidés à tout. Ils avancèrent en masse jusqu'à la porte. « Débarrassez le passage !» dit leur chef d'un ton farouche, à demi-voix. « Vous ne pouvez pas sauver la demoiselle. Allez-vous-en, sans une balle dans la peau, puisqu'on vous en laisse la chance. » Les associés répondirent par leur rire. « Alors au diable, avancez !» La porte s'ouvrit largement et la troupe tira une salve tout en poussant. Elle fit un effort énergique pour pénétrer dans l'allée sablée. Les revolvers firent un bruit joyeux dans le silence de la nuit entre les buissons à l'autre bout. Il a été malaisé de virer avec justesse dans les ténèbres. Le second homme fit un bond convulsif en l'air et tomba la face en avant, les bras étendus. Il se tordit affreusement au clair de lune. Le troisième fut touché à la jambe et s'arrêta. Les autres en firent autant par esprit d'imitation. Après tout, la demoiselle n'était pas pour eux et ils mettaient peu d'entrain à la besogne. Leur capitaine s'élança furieusement en avant, comme un courageux bandit qu'il était, mais il fut accueilli par un coup formidable que lui porta Hebb avec la crosse de son pistolet, coup lancé avec une telle violence qu'il recula en chancelant parmi ses compagnons, le sang ruisselant de sa mâchoire brisée, mais hors d'état de lancer un juron au moment même où il en sentait le besoin le plus urgent. « Ne partez pas encore !» dit la voix, partant des ténèbres. Mais il n'avait nullement l'intention de partir tout de suite. Quelques minutes devaient s'écouler, il le savait avant qu'ils eussent sur eux les gens de l'écluse de Harvey. Ils avaient encore le temps d'enfoncer la porte s'ils pouvaient venir à bout des défenseurs. Mais ce que redoutait Hall se réalisa. Ferguson le Noir connaissait la maison aussi bien que lui. Il courut de toute la vitesse le long de la haie. Les cinq hommes s'y frayaient passage à grand bruit partout où il paraissait y avoir une ouverture. Les deux amis échangèrent un regard. Leurs flancs étaient tournés. Ils restèrent là, pareils à des gens qui connaissent le sort qui les attend et ne craignent pas de l'affronter. Il y eut une mêlée furieuse de corps noirs au clair de lune, pendant qu'éclatait un cri sonore d'encouragement lancé par des voix connues. Les farceurs de l'écluse de Harvey se trouvait en présence d'une situation bien plus extraordinaire que la mystification à laquelle il venait assister. Les associés virent près d'eux des figures amies, Chamish, Struggles, McCoy. Il y eut une reprise désespérée, un corps à corps décisif, un nuage de fumée d'où partaient des coups de feu, des jurons farouches. Quand il se dissipa, on vit une ombre noire s'enfuir toute seule pour sauver sa vie en franchissant l'ouverture de la haie. C'était le seul découvreur de la brousse qui fut resté debout. Mais les vainqueurs ne jetèrent aucun cri de triomphe. Un silence étrange régna parmi eux, suivi d'un murmure compatissant, car en travers du seuil qu'il avait défendu si vaillamment, gisait le pauvre Hebb, l'homme au cœur loyal et simple. Il respirait péniblement, car une balle lui avait traversé les poumons. On le porta dans la maison avec tous les ménagements dont étaient capables ces rudes mineurs. Il y avait là, j'en suis sûr, des hommes qui auraient voulu avoir reçu sa blessure s'ils avaient pu ainsi gagner l'amour de cette jeune fille vêtue de blanc qui se penchait sur le lit taché de sang et lui disait à demi-voix des paroles si douces et si tendres. Cette voix parut leur animer. Il ouvrit ses yeux bleus au regard de rêve et les promena autour de lui. Ils se portèrent sur cette figure. « Perdu la partie, » murmura-t-il. « Pardon, Carrie, morib. » Et avec un sourire languissant, il se laissa aller sur l'oreiller. Mais cette fois, Hebb ne tint pas parole. Sa robuste constitution intervint et il triompha d'une blessure qui eût été mortelle pour un homme plus faible. Faut-il l'attribuer à l'air balsamique des bois que la brise amenait par-dessus des milliers de milles de forêts, jusque dans la chambre du malade ou à la petite garde malade qui le soignait avec une telle douceur? En tout cas, nous savons qu'en moins de 2 mois, il avait vendu ses actions du Connemara et quitté pour toujours la petite cabane de la côte. Peu de temps après, j'eus le plaisir de lire l'extrait d'une lettre écrite par une jeune personne du nom d'Amélie, à laquelle nous avons fait une allusion passagère au cours de notre récit. Nous avons déjà enfreint le secret d'une épître féminine. Aussi, ne nous ferons-nous guère de scrupules de jeter un coup d'œil sur une autre épître. « J'ai été l'une des demoiselles d'honneur, dit-elle, et Carrie paraissait charmante, mot souligné, sous le voile et les fleurs d'oranger. Quel homme! Il est 2 fois plus gros que notre Jack. Il était bien amusant avec sa rougeur. Il a lâché le livre des prières. Et quand on lui a posé la question, il a répondu oui, d'une façon telle que vous l'auriez entendu d'un bout à l'autre de George Street. Son témoin était charmant, mot souligné de 2 traits, avec sa figure douce. Il était bien beau, bien gentil, trop doux pour se défendre parmi ces rudes gaillards, j'en suis sûr. Il est, selon moi, parfaitement possible que, quand les temps furent accomplis, Miss Amélie se soit chargée de veiller elle-même sur notre ancien ami, M. Jack Morgan, généralement connu sous le nom de patron. Il y a, près du coude de la rivière, un arbre qu'on montre en disant « C'est le gommier de Ferguson ». Bon, il est inutile d'entrer dans des détails qui seraient répugnants. La justice est laisse, brève et sévère dans les colonies qui débutent, et les habitants de l'écluse de Harvey étaient gens sérieux et pratiques. L'élite de la société continue à se donner rendez-vous le samedi soir dans la chambre réservée du bar colonial. En de telles circonstances, si l'on a un étranger ou un invité à régaler, on observe constamment le même cérémonial, qui consiste à remplir les verres en silence, à les frapper sur la table, puis, après avoir toussé comme pour s'excuser, Jim Struggle s'avance et fait la narration du poisson d'avril et de la façon dont l'aventure se termina. On est d'accord pour reconnaître qu'il s'en tire en véritable artiste lorsque, parvenu au terme de son récit, il le conclut en balançant son verre en l'air et disant « Maintenant à la santé de monsieur et madame les eaux !» Manifestation sentimentale à laquelle l'étranger ne manquera pas d'applaudir s'il est un homme avisé.